nous faut renoncer à la compétitivité en éducation pour instaurer la complémentarité, la réciprocité, la solidarité entre les enfants. La peur d'échouer, de faire place à l'enthousiasme d'apprendre. Cette option n'est pas seulement morale, elle est profondément réaliste. Pierre Rabhi, de son nom d'origine Rabah Rabhi, né le 29 mai 1938 à Kanatsa, en Algérie, est mort le 4 décembre 2021 à Lyon, il y a très peu de temps, et est un essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste français. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 18 décembre 2021, en attente du Père Noël et des cadeaux. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Notre thème du jour, les devoirs. Pour cela, nous recevons Gabriel, AM de 6e au studio, et Iris et Cécile au téléphone. Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois après que Iris et Cécile se soient présentés ?
Bonjour Iris, bonjour Cécile. Vous nous entendez ?
On n'a plus personne.
Ah, d'accord, ok. On a eu peur. Luc commence à dire ça y est, la technique, est, ça y est, ça ne marche plus.
Non, non, c'est bon.
Bon, c'est bon. Iris, tu peux nous dire dans quelle classe que tu te trouves maintenant ?
Là, actuellement, je suis en seconde.
Oui.
Et je suis au lycée d'Alzon, à Nîmes.
D'accord.
Et quelle option ?
Option théâtre. Et langue des signes.
D'accord.
Française.
Ah, c'est bien, langue des signes. Oui. Parce que c'est pas partout, hein, c'est pas en option partout, assez génial. Ouais, ouais. Et donc, tu as quel âge, Iris ?
J'ai 14 ans.
14 ans, ok. D'accord. Cécile, à ton tour.
Oui.
Donc, tu es la maman.
Voilà, la maman d'Iris.
Voilà, donc...
Après...
Ouais, vas-y, excuse-moi.
Je sais pas comment je peux me présenter. Enfin, voilà. Maman d'une adolescente en seconde, voilà. Pas toujours facile de faire respecter les devoirs.
Ah, donc ça commence bien. Voilà. Donc,
ouais.
Il va y avoir des choses à dire, je pense. Gabriel, à ton tour, présente-toi.
Je m'appelle Gabriel, je suis en 6B et je suis au collège Jean de La Fontaine.
D'accord. Mais vous êtes peut-être un petit hobby, les jeunes, là. Gabriel, qu'est-ce que tu aimes faire, toi ? On va les laisser parler, quand même.
Moi, je préfère quand même les maths. Mes matières où je suis pas non plus le pro, on peut dire, c'est les langues.
Les langues, c'est pas ton truc ?
Non.
Bon, ok. Et à part l'école, qu'est-ce que tu aimes faire ?
Du tir à l'arc et les jeux vidéo.
Tir à l'arc, c'est bien, dites donc. Ça fait longtemps que tu en fais ?
Oui, c'est ma 3e année cette année.
D'accord. Et toi, Iris, alors, tu, au niveau de tes cours, qu'est-ce que tu aimes bien comme, comme cours ?
Moi, j'adore toutes les matières littéraires, donc j'adore les langues, je suis très forte en langues.
Ah ben, on va vous mettre en accord ensemble, en liaison, alors, avec Gabriel. Hein.
Et puis, en loisir, j'adore le théâtre.
D'accord, ok. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer, hein. Alors, les devoirs, la bête noire des enfants, des ados, mais aussi des parents. La journée terminée, tout le monde rentre à la maison. La vie de famille va reprendre tranquillement. Eh bien non, il y a les devoirs. Courageusement, on rouvre les cahiers et les livres, on enlève le capuchon du stylo, allez hop, au travail. Demain, il y a un terreau à l'oral sur la poésie, devoirs sur table, en maths. Et là, nous avons la tension qui monte. Les devoirs, question qui n'a pas fini de faire parler sur leur utilité, appréciée par les uns et maudite par les autres. Donc, eh ben, on va en parler. Hein. On se pose toujours la question si les devoirs sont interdits ou pas à la maison, et cela depuis la circulaire de 1956, qui avait donc pour objectif de les supprimer. En allant sur le site service.fr, voici ce que nous trouvons. Je cite. Les devoirs à faire à la maison peuvent être soit un travail oral, donc lecture ou recherche par exemple, soit des leçons à apprendre. Ceci concerne l'école primaire. Par contre, les devoirs sont autorisés au collège, lycée et dans le cadre de la préparation des devoirs écrits pour le passage en sixième, pour l'introduction des devoirs écrits donc en sixième. Mais la polémique des devoirs à la maison n'est pas prête de stopper. Alors, lorsque nous parlons de devoirs à faire, quelle réaction avez-vous ? Plutôt chouette, c'est sympa, plutôt c'est ringard, ou plutôt encore des devoirs ras-le-bol. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez la liste des devoirs ? La même rengaine en rentrant chaque soir, vous donne-t-il l'envie d'apprendre ou vous en dissuade ? Alors les jeunes, qui commence ? Iris, allez.
Eh ben, moi, c'est plutôt ras-le-bol. Enfin, après, ça dépend des matières, mais... Mais je trouve qu'au lycée, il y a plus de devoirs qu'au collège et en primaire, forcément. Mm-hmm. Mais dans certaines matières, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est plus travailler et passer plus de temps. Donc, c'est un peu rageant.
C'est un peu rageant.
Parce que tu penses qu'au lycée, tu as un travail plus personnel à faire ?
Oui. Oui, oui, totalement. Il y a plus de recherches à faire pour avoir un peu plus de culture. Et forcément, les profs en jouent sur les contrôles, sur les interrogations.
D'accord. Et toi, Gabriel ?
Moi, je suis pareil que Iris et ras-le-bol. Les seuls devoirs qu'en fait, je m'y occupe presque pas, là, en sixième, c'est les maths. Je les fais tous en cours. J'en ai jamais à faire à la maison. Ça, c'est bien. Mais après, je suis comme Iris et ras-le-bol.
Mais alors donc, tu fais les devoirs, c'est-à-dire les exercices, tu les fais en cours. C'est-à-dire que le professeur fait son cours, mais il va vous laisser un certain temps pour faire les exercices qui auraient dû être faits à la maison. C'est ça ?
Oui.
Et donc, ça, c'est... il n'y a que lui qui le fait, en fin de compte ?
Non, il y en a d'autres. Il y en a quelques autres, je ne sais plus.
Mmh. Mais... Et il vous a dit pourquoi il voulait travailler comme ça, le professeur, ou c'est une tactique qu'il a depuis des années ?
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, il fait ça. Ok. Et toi, tu as, Iris, des professeurs qui font ça aussi ? Ou pas du tout ?
En maths, un petit peu, mais à chaque fois... Comme on ne comprend pas forcément tout, elle passe plus de temps à expliquer que nous, on passe de temps à faire les exercices. Ce qui fait qu'on a beaucoup de devoirs quand même à faire à la maison.
Donc, en fin de compte, comme vous dites tous les deux, on en a un petit peu ras-le-bol des devoirs, en fin de compte, ça vous dissuade presque de les faire, en fin de compte. Ça ne vous encourage pas, il n'y a pas la motivation derrière qui suit.
Non.
Et toi, Gabriel, non plus ?
Non.
Non plus.
Mais les devoirs, ils vous sont donnés sur quelle période ?
Tout le temps, tous les soirs.
Oui.
Tout le temps ?
Ça dépend, en fait. Ça dépend de l'emploi du temps. Enfin, moi, personnellement, si j'ai maths le lundi et que je ne l'ai pas avant vendredi, j'ai une semaine pour faire les exercices.
Donc, c'est à toi de t'organiser. Ça, on en reparlera après, effectivement. Voilà, oui, oui. Et toi, Gabriel ?
Non.
Non. Alors, j'ai quand même une question à vous poser.
Aussi.
Est-ce que ça vous stresse, en fin de compte, les devoirs ? Parce qu'on entend beaucoup de jeunes, que ce soit des collégiens, des lycéens, qui disent justement qu'ils sont stressés par les devoirs. Est-ce que c'est votre cas ? Oh, grande respiration du côté d'Iris.
Oui, même respiration du côté de Gabriel.
Alors, êtes-vous stressé ? Oui, non, pas du tout, un petit peu, beaucoup ?
Non, sauf pendant les évals. Sauf pendant quand il faut réviser les évals, sinon non.
Non, d'accord. Et toi, Iris, c'est pareil pour les
Ouais, pareil.
Pour les évaluations.
C'est plus stressant de réviser pour les évaluations, surtout au lycée, parce qu'on a plus de recherches à faire, de savoir si ce qu'on a appris, ce sera pour... ça va tomber au contrôle. Enfin, c'est plus stressant que les exercices en eux-mêmes.
En fin de compte, ce qui vous stresse, c'est la notation. En fin de compte, c'est le fait d'être noté. C'est ça qui vous stresse.
Oui.
Parce que sinon, vous faites les devoirs un peu plus cool, sinon.
Oui, c'est plus de l'autonomie au lycée, collège, et puis après, surtout lycée, c'est beaucoup plus de l'autonomie.
Et Jackie ?
Oui.
Tu as trouvé des statistiques sur les jeunes stressés par les devoirs ?
Alors, j'ai trouvé déjà surtout ce qu'il en est enfin déjà en premier lieu, ce qu'il
et
en
il veut
ce
pas répondre à ma question.
Oui, mais ce qu'il en a été, ce qu'il en a été aussi de la manière, au niveau officiel, au niveau des devoirs. On est passé quand même par 5 lois depuis 1956. Il y a eu une loi en 1956, 1994, 2008.
Celle de 94, elle était pas mal, non ?
Alors celle de 94, elle était pour abroger un texte qui était de 1956. Bon, les lois, elles abrogent les autres qui sont avant. Il y en a eu une en 94, il y en a eu une en 2008, il y en a eu une en 2013, et la dernière vient de 2021-2022. Elle est très récente. Elle est très récente, elle est de là de la rentrée.
Et celle de 94, c'était pas celle on devait laisser, en fin de compte, pour que les enfants fassent les devoirs à l'école, on devait laisser 30 minutes à chaque fin de cours, c'était pas ça ?
Oui, mais celle de 94, la toute première de 1956, elle est surtout sur le fait donc, de bien mettre les choses en place. Donc pour mettre chacun, pour les primaires, de ne pas avoir de devoirs écrits, que ce soit surtout du travail oral et des leçons à apprendre. Et après, bon, pour les autres collèges, lycées, qui avec les devoirs étaient autorisés, aussi bien écrits et autres, donc et dans toutes les matières possibles. Et après, bon, au fur et à mesure du temps, on a aussi mis aussi que il y avait des choses qui étaient pour 1956, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne soit demandé aux élèves en dehors de la classe. C'est-à-dire qu'il y avait aussi possibilité un certain temps, notamment surtout dans les primaires, un certain temps, notamment en fin de classe, de faire une continuité du cours. Mmh. Et que ça soit une sorte de, comment dire, ce qu'on avait avant. Avant, on avait à la fin, il y avait une période où on pouvait, faire les devoirs à l'école.
À l'école, oui.
Donc là, normalement, en 56 et en 94, il y avait cette chose de pouvoir que les profs, surtout en primaire, que les profs donnaient un petit temps à la fin des cours.
Des cours
à la fin de l'école.
Pour qu'ils fassent les devoirs, voilà, non d'avoir à les un faire petit temps. À la maison.
Mais ce qui a été abrogé par la suite, enfin, ça a été tout un amalgame. Et là, on a reclarifié en 2021-22, comme quoi, en primaire, il n'y a pas de devoir, sauf des leçons à apprendre, des petites choses orales. Et collège-lycée, il y a devoirs écrits et toutes sortes de devoirs possibles à faire passer.
Alors c'est vrai que beaucoup de parents râlent aussi parce qu'ils disent oui, effectivement, alors si en primaire, on ne leur donne pas du tout de devoirs, comment ils vont pouvoir arriver en sixième, eh bien être prêt pour faire les devoirs, en fin de compte.
Par contre, sur le stress, il y a une... Enfin, le stress en général. Il y a j'ai vu une étude qui a été faite par Ipsos auprès de 1000 et quelques parents et enfants âgés de 6 à 12 ans pour une nouvelle plateforme numérique de jeux. Donc, ce qui est ce qu'il a, je connais pas ça. Bon,
non, enfin, je connais pas du tout. Non.
Donc, sur les devoirs à la maison, qui sont apparemment toujours pas source de plaisir, bien au contraire. Alors, pour 47% d'entre eux, ils associent les devoirs à un moment stressant.
47%, voilà. Hein, c'est quand même pas mal, hein, voilà. C'est pratiquement un sur deux. Voilà. Hein.
La plupart des parents rencontrent en effet des difficultés pour aider leurs enfants de leur apprentissage scolaire, soit par manque de temps, 50%, soit par manque de patience et d'énergie, 48%. 39% ne savent pas comment s'y prendre pour leur donner l'envie d'apprendre. Et 33% se sentent impuissants quant à l'éducation de leurs enfants, enfin au niveau des devoirs. Hein. Comment faire passer ça ? 85% des parents admettent utiliser Internet pour trouver des réponses aux devoirs à faire par les petits et par les écoliers. 22%, donc, et aussi, il y a de la part des enfants, ils le ressentent aussi, que les parents se sentent de temps en temps un peu perdus au niveau des devoirs. 22% estiment que ces derniers ne savent pas toujours comment leur expliquer ce qu'ils ont bien compris en classe. Donc la suite par rapport aux parents et ce qui a été mis en classe par rapport à ça. 24% quand il s'agit de leur mère et 12% quand il s'agit des pères.
Donc d'accord.
Les mères ont un peu plus un peu plus d'approche par rapport à cela, par rapport aux pères de 12%. Et 37% témoignent de l'événement fréquent de leurs parents au moment des devoirs. Donc voilà, l'énervement. Et 68% des petits écoliers déclarent aimer faire leurs devoirs et réviser leurs leçons. 29% d'entre eux, les mathématiques ne sont plus mal les matières préférées.
Ben c'est normal, ils commencent. Alors bon, effectivement, les devoirs, c'est bon, la rentrée à l'école, ils sont assez contents, Gérard.
Mais moi, quand je vais dans les collèges pour rencontrer les sixièmes, on essaye de leur dire « aimer apprendre à apprendre ». Donc, je voudrais savoir si, Iris, toi, quand tu étais en sixième, on t'a donné cette notion. Est-ce que quelqu'un t'a expliqué comment fallait faire pour faire vos devoirs le soir, etc.
Allô ?
Oui.
Alors là, il y a un blanc.
Iris réfléchit. Iris réfléchit.
Mais oui, je réfléchissais à ma réponse. Non, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'aidait à m'organiser dans mes devoirs. Donc, ce n'était pas trop un problème, l'organisation.
Non, mais la question que je te pose, est-ce que tu as des professeurs ou ton professeur principal qui, en sixième, vous a dit, voilà, vous allez avoir un travail personnel à faire.
Non.
Bon,
non,
j'avais peut-être pas un ordre à donner, mais voilà, vous pouvez travailler avec des fiches, vous pouvez travailler, etc., etc. Non, pas du tout.
Non, il m'explique pas ça.
D'accord.
Et toi, Gabriel?
Moi, pour l'instant, le prof principal, il dit rien. Mais j'ai quand même retourné vite fait sur la question de la loi de 1956.
Oh là 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 là. Bon, on laisse le micro, ça va. Vas-y, Gabrielle.
Notre prof d'allemand et d'anglais laisse un quart d'heure devoir fait. Après les 45 minutes, laisse un quart d'heure pour faire les devoirs.
Ça, c'est bien. Voilà.
On applaudit, ça, c'est vraiment bien.
Il n'y a que notre classe qui fait ça. Ils ont dit, on va essayer.
Ah, ils vont faire un essai. D'accord. Et alors ?
Bah, nous, c'est plus sur les dessins et les morpions qu'on fait ça.
Ah, d'accord.
Voilà, voilà. T'es pas bien, ça.
À dire ça devant ton grand-père, c'est pas bien.
surtout Gérard. Hein.
Là, j'ai pris des notes. Hein. Non, parce que c'est vrai. Hein. Je vais quand même...
Souvent,
j'ai vu cette année 7 sixièmes dans 7 collèges différents. Et à chaque fois que je leur pose la question, c'est... Bah non, on leur apprend pas à travailler dès la sixième. Donc s'ils prennent pas les bonnes habitudes en sixième, plus ils vont aller dans la poursuite de leurs études, plus ça va être difficile, quoi.
Oui, souvent c'est vrai, ce sont les parents qui comme disait Iris, en fin de compte, qui apprennent un petit peu à leur enfant à s'organiser. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est après avoir passé 8 heures sur les bancs de l'école et rentré chez soi pour faire encore des devoirs, avez-vous vraiment envie de les faire? Et après 17 heures, est-ce que la concentration est toujours là? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous êtes toujours concentré au bout d'avoir passé une journée à l'école entière? Est-ce que vous sentez la fatigue qui arrive? Est-ce que vous avez encore le punch, quoi, pour faire les devoirs? Gabriel?
Moi, si c'est juste après rentrer, je pense que j'ai encore la mémoire pour faire les exercices. Par contre, si on me dit « tu goûtes, tu joues un peu et tu reviens », je pense que là, ce serait un peu un trou noir. Il faudrait que je relise mes leçons.
D'accord. C'est-à-dire que bon, donc pour toi, il faut une continuité. Il ne faut pas un arrêt. D'accord. Non. Et toi, Iris, t'es pareil ou toi, tu prends plus le temps?
Moi, je prends quand même un peu plus de temps. C'est mieux, en fait. Je trouve ça beaucoup mieux.
Oui, ça te permet d'évacuer un petit peu, de goûter tranquillement et puis repartir.
Ouais.
D'accord. Et moi, je voulais vous poser la question suivante. Avec le recul, pensez-vous que les devoirs, ce soit bénéfique pour obtenir de meilleurs résultats? Pour devenir un bon élève, avez-vous besoin justement de devoirs à la maison? Et est-ce que pour vous, ça permet la réussite scolaire ou pas du tout, les devoirs?
Personnellement, si on apprend une matière, il faut bien s'exercer, mais après, c'est sur la quantité. Je suis lycéenne, donc j'ai beaucoup de matières. Si, par exemple, dans toutes les matières, on me donne 3 ou 4 exercices à faire pour dans la semaine, c'est assez compliqué, j'ai pas forcément le temps et je peux pas tout faire en permanence.
D'accord.
Est-ce qu'il y a un temps assez court avec par rapport à chaque devoir?
Voilà,
est-ce que les professeurs donnent des temps courts par rapport à chaque
devoir? C'est-à-dire que la problématique, c'est quand on a un cours de maths le lundi et rebelote, on a cours de maths le mardi, par exemple. Alors là, si vous avez des devoirs en supplément, c'est très compliqué.
Non, parce que normalement, c'est pareil. Dans la loi, normalement, il y a aussi un écart à donner par rapport... Alors, bon, ça vient des professeurs aussi,
oui.
Mais...
Toi, Iris, ça t'arrive d'avoir des devoirs du jour au lendemain?
Ouais, tout le temps.
Ça, c'est pareil.
Tout le temps, ouais. Et toi, Gabriel, aussi?
Oui.
Mais qu'est-ce que tu appelles des devoirs du jour au lendemain?
Il y a beaucoup d'exercices.
En fait, ce que j'appelle des devoirs du jour au lendemain, c'est, par exemple, en maths, j'ai 3-4 exercices à faire de lundi au mardi, en fait. Parce que souvent, quand on comprend pas forcément la leçon, après une journée de lycée, c'est assez compliqué de se reconcentrer et de bien travailler. Donc forcément, le travail n'est pas forcément très bien fait.
C'est le suivi de la leçon qui a été faite dans la journée.
Et comment tu me définirais le mot devoir pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'un devoir?
C'est un entraînement, je pense.
Oui.
C'est juste un exercice qui nous mène à bien comprendre la leçon, en fait.
Et est-ce que la relaxion, n'importe quoi, la relecture de tes cours, tu considères ça comme un devoir?
Non, pas forcément. C'est juste de l'apprentissage.
Et tu penses pas que c'est primordial? La relecture de ce que vous avez fait dans la journée, pour toi, ce n'est pas un devoir le soir?
C'est pas un devoir dans le sens où c'est pas obligatoire, c'est pas le prof qui demande à faire ça.
Voilà, ça vient de toi-même.
Ouais, voilà.
D'accord, parce que je voulais revenir sur le fait d'apprendre à travailler, c'est pour ça que
apprendre à apprendre, voilà, c'est ça.
C'est un suivi du cours.
C'est un suivi du cours.
La définition de devoir, moi je dirais, c'est juste des exercices ou des leçons à apprendre par un professeur.
Voilà.
Voilà,
donc
c'est
ça. Donc il y a le petit manque, on ne leur explique pas. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est ça. On ne leur apprend pas à travailler comme il faut.
C'est-à-dire peut-être, le mot devoir est peut-être... est mal pris. En fin de compte, c'est plus un travail personnel qu'on demande de faire, tout simplement. Si on leur disait, c'est un travail personnel, c'est un travail pour vous, peut-être qu'ils arriveraient plus à comprendre la nécessité aussi.
Après, c'est aussi suivant les matières aussi qui sont proposées. Parce qu'il y a des matières aussi, il y a besoin d'avoir un suivi du cours, mais il y a des matières aussi, moi je le vois en histoire géo, puisque je connais bien cette matière-là. C'est plus après, dans certaines matières, c'est plus une recherche, une autonomie, une documentation par rapport à des thèmes qu'on va proposer, que le prof va proposer.
C'est pour ça que j'allais poser la question à Iris. Est-ce qu'elle a des professeurs qui leur demandent d'anticiper un cours?
Ah oui, c'est-à-dire de faire une recherche, effectivement, avant.
Oui, en fait, ils ne le disent pas tout le temps parce qu'ils veulent qu'on le fasse tout seul. Mais oui, en fait, c'est tout le temps, c'est pour toutes les matières, en fait. On a besoin de faire plus de recherches, par exemple en histoire géo, même en sciences physiques, c'est dans toutes les matières.
Et tu penses que plus tu vas dans les études, plus tu vas monter, première terminale, tu penses que ça c'est le genre de problème qu'on va te demander sans arrêt, de plus en plus?
Ouais.
Et comment, justement sur cette question, comment vois-tu la suite de tes études avec des devoirs qui vont être de plus en plus abondants? Est-ce que tu vas avoir l'impression d'avoir une vie peut-être en dehors du lycée ou de l'université?
C'est sûr que ça va être... je vais avoir moins de temps pour les loisirs parce qu'il y aura forcément plus de devoirs, mais après, c'est juste une organisation à avoir
Moi, je voudrais revenir un petit peu lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, en maternelle. On voit que tout se passe bien. Nous, on fait les sorties des écoles des fois et par le biais de l'association, on voit les enfants de maternelle sortir. Ils sont tout contents. Ils expliquent aux parents ce qu'ils ont fait, etc. Et dès que les enfants arrivent en CP, on voit déjà le stress. Vite, vite, maman, faut que je rentre. J'ai beaucoup de devoirs à faire. Moi, je voudrais vous poser la question. Comment ça se passait lorsque vous étiez beaucoup plus jeune? Est-ce que vous aviez beaucoup de devoirs ou pas en primaire, sachant qu'effectivement, il n'y avait pas d'écrit, puisque c'était plus ou moins interdit par la loi de 56? Qu'est-ce que tu avais eu beaucoup de devoirs, toi, en primaire Iris?
Moi, j'avais beaucoup de devoirs, mais même s'ils étaient écrits, j'avais beaucoup d'exercices quand même en primaire.
Tu avais beaucoup d'exercices en primaire, mais tu étais en privé ou en public? Au niveau des
en
deux
privé.
En privé, oui, d'accord. Et ça, tu le vivais comment, en fin de compte? Le fait de rentrer et puis d'avoir les devoirs à faire?
Pas très bien, en fait. J'étais capricieuse.
Capricieuse, tiens.
J'avais fait ma journée, j'avais pas vraiment envie de refaire du travail encore. Non, c'était un peu la guerre à la maison.
Et toi, Gabrielle?
Alors, les classes où j'avais eu les devoirs un peu que j'ai au collège maintenant, c'était, je crois, CP et CM1. Sinon, CE1, CE2, et là, l'année dernière, CM2, c'était pas non plus des devoirs énormes.
Donc ça dépend des professeurs en fin de compte.
Oui.
C'est ça.
Mais tu sais, je prends le cas des primaires. Bon, c'est le petit exemple que je donne au sixième pour avoir l'envie de travailler. Je leur dis comme ça, quand vous êtes en CP, vous avez envie d'apprendre à lire. Il faut absolument apprendre à lire, parce que si vous apprenez pas bien à lire, ça va pas. Donc ils sont un peu motivés par le fait d'avoir à lire. Et je leur disais, c'est comme un jeune bébé, il n'y a rien. Hein. Il a envie de marcher, il faut qu'il marche, il a la volonté de marcher. Et je leur dis, mais voilà, ce qui est malheureux, c'est que la volonté que vous aviez quand vous étiez petit, vous la perdez petit à petit dans les études, parce que ben, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas.
Et c'est le problème. Alors, de visualiser peut-être... un but aussi. C'est ça, le but, ouais, de savoir lire, le but, ouais, après d'aller ailleurs.
Oui, je pense que quand ils arrivent en CP, ils sont tout contents. On va apprendre à lire, on va apprendre à faire ceci et cela. Et justement, la problématique, c'est pourquoi, à force d'aller à l'école, pourquoi ils en viennent, ils ont plus envie, ils sont plus motivés. Il y a bien quelque chose qui se passe. Alors, c'est vrai que nous, les parents, on dit oui, c'est peut-être les devoirs. C'est peut-être parce que les cours sont peut-être pas intéressants pour eux. On ne sait pas. Cécile, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cette question? Est-ce que tu penses réellement c'est parce que les enfants en ont marre des devoirs, de rentrer, de faire toujours la même chose en fin de compte, aller à l'école, rentrer, goûter vite fait, faire les devoirs qui parfois n'en finissent pas? Est-ce que c'est pour ça aussi qu'arrivent au collège, ils ont envie de baisser les bras peut-être?
Alors, je pense que c'est pas qu'au niveau du collège qui baisse les bras, c'est aussi en primaire. Je pense que c'est trop, déjà rien qu'à l'école primaire, c'est, je vais dire entre guillemets, c'est trop académique. C'est-à-dire qu'on est en classe, on est toute la journée devant son cahier, et donc, des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de jouer encore à l'âge du CP, CE1, c'est un peu trop, on va dire, on les oblige un peu trop à rester devant leur table à gratter du papier. Moi j'avais fait l'histoire avec ma fille pour qu'elle puisse s'intéresser à l'histoire géographie, on étalait une carte par terre, on prenait des petits personnages qu'elle avait qui ressemblaient à des rois, des reines, des choses comme ça, et j'expliquais l'histoire en racontant l'histoire avec ces petits personnages et en les mettant sur la carte en fait, soit par rapport à une région où ils étaient, soit voilà, pour qu'elle puisse bien s'imaginer et bien comprendre l'histoire qu'on essayait de lui raconter. Voilà. Donc, tout était fait sous forme d'histoire, en fait.
Voilà, c'était quelque chose de ludique et à la fois amusant, c'est ça.
Et voilà. Donc, le problème, c'est qu'après, il fallait le faire tous les soirs comme ça, donc c'est un peu...
Oui, voilà, les parents n'ont pas toujours le temps, c'est vrai, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Mais ça, c'est l'éternel problème aussi au niveau du comment les profs amènent les matières, hein. Si le prof, c'est aussi le renouvellement du prof par rapport à s'il veut faire d'une façon académique ou d'une façon beaucoup plus moderne et ludique.
Oui.
Oui, je pense que
mais
c'est...
Mais bon, je trouve que ça devrait être fait un peu plus dans l'amusement pour les intéresser, parce que ça reste des jeunes enfants. Et alors, que rester derrière une table toute la journée, c'est un peu compliqué.
Alors, c'est vrai que ça a changé un petit peu. Nous, on le voit au niveau de REP+, en primaire. On fait beaucoup de projets maintenant, justement, pour essayer que les enfants s'intéressent un peu plus au cours. Et puis, oui, voilà, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a trop de, cours. Je pense que le programme est trop rigide. Voilà. On me fait signe. Vas-y, Gabriel.
Je voudrais venir sur le CP et CM1. Les devoirs, pour moi, c'était pas vraiment, à cette époque-là, pendant ces deux années, c'était pas galère, parce qu'en fait, t'apprenais des choses, donc c'était motivant, alors que CE1, CE2 et CM2, on revient sur les choses que t'apprenais avant. Donc la sixième, c'est la même chose, on réapprend ce que t'apprends en CM1 et CM2.
Surtout en histoire.
Et c'est à partir de la cinquième où je pense que là, je vais un peu être motivé pour apprendre les nouvelles choses.
Eh ben, on va demander à Iris comment le changement qu'il y a entre la cinquième et la sixième.
Déjà, la sixième, on nous introduit un petit peu le collège. C'est des notions qui sont plutôt faciles et qu'on va plus approfondir dans les autres classes. Donc, faut juste... En fait, pendant le collège, on va refaire toujours à peu près la même chose, qu'on va plus approfondir et la motivation, elle part, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Et au lieu de faire tout le chapitre en sixième, par exemple, on va l'étaler sur sixième, cinquième, quatrième.
Mais quand tu étais au collège, je vais te poser une petite question, mais Est-ce que tu as pensé que pendant que tu étais au collège, qu'il y avait des matières qui ne servaient à rien pour toi? Ne les nomme pas, hein, c'est pas la peine, mais est-ce que tu pensais qu'il y avait des matières qui te servaient à rien?
Ah oui, totalement.
Donc c'est
ouais, encore maintenant. Hein.
Oui, parce que souvent, on ne leur explique pas pourquoi, c'est toujours ce qu'on dit aussi.
Donc tu as toujours le problème de, par rapport à cette matière, de savoir est-ce que je fais mes devoirs, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est ça?
Bah, en fait, c'est juste que bah, quand on n'aime pas une matière et qu'on trouve que elle va rien nous apporter pour plus tard, pour nos projets professionnels, bah, on n'a pas vraiment envie de s'y intéresser.
Voilà, puis d'y travailler.
Et d'approfondir le sujet.
Tout à fait.
Du coup, on passe plus comprend. De temps sur les autres matières.
C'est toujours ce que nous disent tous les jeunes. Hein. En général, toi, Gabrielle, tu vas dire la même chose.
Oui, j'ai deux matières. Je vais déjà faire un métier. Il y a deux matières qui, je pense, me serviront à...
Alors, quel métier veux-tu faire?
Dans la recherche scientifique.
D'accord. Alors, quelles sont les matières qui vont te servir peut-être à rien, comme tu dis?
La musique et le sport.
Oui, mais bon, la musique, c'est bien aussi. Le sport, on en a besoin pour être en pleine forme. Mais et c'est marrant,
tout ça.
Tout
c'est des matières complémentaires.
Des matières oui, voilà, mais... qui n'apportent peut-être pas beaucoup de points, effectivement, mais qui peuvent quand même plus tard... aérer l'esprit plutôt que d'être toujours dans la recherche.
Moi, c'est ce que je leur dis, hein, quand je vais quand même dire à Iris et Cécile, moi, je suis retraité, je fais partie d'une association qui est dans les collèges, de la 3e à la 6e, contre le décrochage scolaire.
Et moi, je plains les enfants. Hein.
Et quand les jeunes me disent il y a des matières qui servent à rien, je leur dis simplement, je vous demande juste une chose, pendant une heure, vous vous concentrez sur cette matière que vous trouvez qui ne sert à rien, vous concentrez à fond, et à la fin, vous vous demandez en quoi cette matière pourrait me servir un jour.
Oui, bien sûr.
Et vous verrez que peut-être qu'au bout d'une heure, vous aurez changé d'avis.
Alors, mon pauvre Gabriel, comme c'est ton grand-père, je suppose que tu as déjà eu cette conversation avec lui.
Non.
Non.
Ah non, moi, je ne veux pas. Alors, en tant que grand-père, je ne veux surtout pas interférer dans les affaires avec mon fils.
Ah non. Ah, c'est bien ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Gabriel?
Aussi, pour moi aussi, il faut aussi que le prof, il soit...
C'est la priorité,
sympa.
Ça.
À l'écoute.
Oui, sympa aussi. Pas non plus intransigeant, genre, vous faites 3 devoirs pour demain, 2 devoirs pour après-demain, 5 devoirs pour vendredi.
Dis donc, tu fais bien le prof, hein, en fin de compte. Hein.
Non, mais de toute façon, c'est ce que je dis, c'est toujours de la peau du prof. Hein.
Non, mais c'est vrai que si, dans toute matière, si le prof, il amène sa matière d'une façon que les élèves se sentent concernés, ça marchera bien.
Ouais.
Après, si c'est fait d'une manière académique, stricte, bon, à un moment donné, ça risque de lâcher,
oui,
c'est sûr.
Ça décroche. Hein.
Alors moi, juste une petite question, et puis après, on va passer à l'intermède musical. Avec la fatigue et souvent la non-motivation pour faire les devoirs, on a souvent envie d'effectuer tout à la dernière minute. On a toujours le temps. Hein. Je me rappelle, moi, j'étais comme ça. Hein. Alors, que faire pour se donner de la force, remonter le moral et de se dire plus vite terminé, plus vite tranquille? Iris, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te booster un petit peu?
Bah, en fait, je me dis que bah après c'est fini, je peux faire mes loisirs, mais c'est toujours très compliqué dans certaines matières, mais bon.
Mais est-ce que tu t'y tiens à ça? Est-ce que vraiment, ou alors est-ce que tu fais déjà des devoirs vraiment à la dernière minute, parce que même si on te les a donnés à l'avance?
Ça dépend. Ça dépend vraiment si j'ai vraiment envie de faire un devoir ou le prof l'a bien introduit ou quoi. Mais ça dépend vraiment des matières, en fait. C'est très aléatoire.
Et qu'est-ce qui pourrait alors te motiver?
Qu'est-ce qui peut me motiver? Je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas répondre à cette question.
Non, tu ne sais pas. Et toi, Gabrielle, alors...
Alors moi, ça tient sur un seul fil, hein. Si j'étais pas aussi, on peut dire, accro aux jeux vidéo, je pense pas que ce truc où il faut tout terminer tout de suite, là, pour après être tranquille sur les jeux vidéo, je pense que si ça va sur une seule route, j'aime plus les jeux vidéo, je pense que j'aurais plus cette motivation-là.
D'accord. Alors, tu te dépêches de faire les devoirs pour aller sur les jeux vidéo. Alors, tu passes plus de temps sur tes devoirs ou sur les jeux vidéo?
Mes parents, vu qu'ils savent que je suis vraiment accro, ça m'est arrivé pendant les vacances à l'époque, il y a 1 an ou 2 ans, de rester 6 heures sur l'écran. Et à partir de là, ma
d'affilée
mère...
D'affilée
Oui.
6 heures d'affilée, waouh.
Et là, mon père, il a dit stop.
Il a raison.
1h30 par jour et pas pendant les jours d'école, juste pendant mercredi, samedi, dimanche et pendant les vacances.
Mais est-ce qu'on aussi, justement, on parle des jeux vidéo, mais est-ce que, justement, là, je regardais, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'apprendre et de faire des devoirs par l'intermédiaire du numérique et de tout ce qui est, justement, nouvelle technologie? Pourquoi pas?
Ben oui, non, mais on leur demande. Alors, dans un cas, c'est vrai qu'on leur demande. Non, mais je suis d'accord, mais nous, en tant que parents, et même, je veux dire, au niveau de l'ANSES et tout ça, au niveau de la santé, ils disent non, pas trop d'écran. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le confinement, on demandait plus aux gamins d'être sur les écrans en faisant du numérique. Et ça a rendu les gamins encore plus accros aux jeux vidéo.
Tout est une question de règles au niveau des heures. Si on donne un temps donné pour justement faire telle et telle chose, parce que là, je...
Ouais, mais les gamins, ils n'écoutent pas, hein.
Oui, mais ça, c'est une question d'organisation, c'est une question de prise en compte du temps.
Ouais, d'accord, mais c'est compliqué, hein, parce que les jeux vidéo, ils aiment bien, donc c'est très compliqué de... Ou alors, faut couper l'électricité. Oh. Voilà.
Et parce oui, que là, est-ce
meilleur
que...
moyen.
Est-ce que je...
Vas-y, oui, vas-y, Cécile. Vas-y.
Alors, moi, j'ai eu l'expérience avec Iris en 5e et s'est retrouvée dans un collège où la tablette était obligatoire. C'est-à-dire qu'on distribuait des tablettes à la rentrée.
Oui.
Franchement, ça n'a pas été une super expérience.
Oui, c'est
parce
ce
que
m'en
ben,
m'en dit, oui.
Tout était fait dessus et ben les yeux explosaient et puis ben ça s'énerve facilement parce que c'est encore un âge où ça ne sait pas gérer trop ses émotions. Et
oui,
donc,
je crois ce que tu veux dire, c'était les fameuses tablettes données par le conseil départemental de l'Oise, c'est ça?
Non, c'était carrément le collège. À
ah,
l'époque,
d'accord.
On était
okay.
En Gironde et c'était le collège qui donnait des tablettes à partir de la 5e,
mm-hmm.
Donc de la 5e à la 3e. Et c'était, moi, j'ai pas trouvé ça vraiment génial parce que tous les livres étaient sur tablette. Alors, c'est bien, il n'y avait plus de livres dans le sac.
Mmh.
Sauf que ça n'allégeait pas le sac parce qu'il y avait tellement de cahiers à côté. Parce qu'il y avait un cahier de cours et un cahier d'exercice dans le sac pour chaque matière. Sauf que, du coup, on avait toutes les matières toute la journée,
mmh.
Comme si on était en primaire. Sauf que, le sac était tout aussi lourd. Je voyais pas trop l'intérêt. Et en plus, ils passaient leur temps sur la tablette, parce que les exercices se faisaient sur la tablette, les cours étaient sur, enfin, les livres étaient sur la tablette, enfin, c'était du non-stop, 8 heures par jour sur la tablette, et quand on rentrait, il y avait les devoirs à faire sur la tablette. Donc, non, au bout d'un moment, on dit non, on dit stop.
D'accord, il y a juste Gabriel qui veut dire quelque chose.
Je rejoins aussi sur la question de Cécile, la tablette, c'est pas inutile parce que en plus au fur et à mesure tu vas perdre ton écriture. Donc quand par exemple plus tard, genre dans des grandes entreprises, si tu veux faire ça, tu dois écrire un registre, à cause de la tablette là au collège, vu que c'est la moitié de ton année de ta vie scolaire, on peut dire, tu perds ton écriture et donc plus tard ça va pas t'aider.
Oui, t'as peur que le fait d'utiliser toujours le numérique, mais qu'on perde
l'écriture. Ça doit être complémentaire.
On y va.
Et il a raison aussi, parce que quand on est dyspraxie, comme Iris en plus, on a besoin d'écrire, puisqu'on a un souci de, justement, visuel. Donc, c'est très, très compliqué.
On y revient, on va passer...
Une petite pause musicale.
C'est ma bête noire, les devoirs, c'est ma bête noire, les devoirs, c'est ma bête noire. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé, y'a pas moyen de passer à côté. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé, y'a pas moyen, j'ai beau taper du pied. Y'a rien à faire, comme dit ma grand-mère, y'a rien à faire, il faut les faire quand faut y aller. Comme dit mon pépé, quand faut y aller, il faut y aller. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de passer à côté. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen, j'ai beau taper du pied. Pas de salisette, même si ça t'embête, pas de salisette. Faut que tu t'y mettes, y'a pas de grimace. Même si ça t'agace, y'a pas de grimace. Faut que tu les fasses. Les devoirs,
devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de passer à côté. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen, j'ai beau taper du pied. Tout ce qui est fait, comme dit cousin Albert, tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est pas nouveau, pour pas finir idiot, c'est pas nouveau. Il faut ce qu'il faut. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de passer à côté. Y'a pas moyen, j'ai tout essayé. Y'a pas moyen, j'ai beau taper du pied. C'est pas sorcier, si tu veux y arriver, c'est pas sorcier. Faut travailler pour être bon, comme dit mon tonton, pour être bon. Fais tes leçons. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Les devoirs, c'est ma bête noire. Y'a rien à faire, comme dit ma grand-mère, y'a rien à faire. Il faut les faire. Il faut les faire. Oh.
Notre thème du jour, les devoirs. Pour cela, nous recevons Gabriel au studio, élève de 6e, et au téléphone, Iris et Cécile. Sylvie.
Donc, vous avez tous reconnu hein, ma bête noire d'Henri Dess. Voilà. Donc, on va voir que les devoirs, ben, des fois, c'est conflit à la maison, hein, entre les parents, c'est pas facile non plus. Alors, certains parents acceptent volontiers d'aider leurs enfants, d'autres, par leurs activités professionnelles, n'ont pas le temps. Moi, j'aimerais savoir qui aide à la maison, en fin de compte, Gabriel, chez toi.
Papa, il aide surtout sur la langue allemande. Là, je suis en classe allemande. Donc, papa, il fait surtout l'allemand, que maman, elle comprend rien.
Donc, elle n'a pas fait classe allemand.
Non.
Et maman, elle aide pour quoi, alors?
Par contre, elle aide ma mère et c'est presque tout, bah, sauf l'allemand.
Voilà, d'accord.
Et pour ça, il ne veut pas venir voir sa grand-mère qui connaît pas mal de choses en allemand.
Ah oui,
c'est pas pareil. Là.
Voilà, mais c'est ça. Et toi, Iris, c'est qui aide à la maison? On a compris que c'était maman.
Oui, c'est maman pour les matières littéraires, mais c'est papa plus maths, sciences physiques.
Ah, c'est marrant,
c'est bien
structuré, c'est bien cadré.
Hein. Oui.
Ah oui. Alors, comment ça se passe à la maison quand vous n'avez pas envie de faire vos devoirs? Est-ce qu'il y a un petit dialogue? Comment réagissent vos parents? Est-ce que ça passe directement à la punition? Comment vous vivez ces moments-là? Quand les parents grondent pour les devoirs, Gabriel.
Avec papa, au bout d'un moment, ça rentre. Hein, dès qu'il s'énerve, je dis ok, papa, je l'ai fait parce que je sais que ça si je le fais pas, ça va partir sur punition de console. Donc.
Ah, d'accord.
Je vais vite.
Et avec maman?
Oh bah maman, elle s'énerve. Quand elle s'énerve, c'est même pas de l'énervement, je pense. Elle se calme très vite. Je l'ai fait, mais elle, on dirait, c'est un peu mieux.
C'est un peu plus cool avec maman. Et toi, Iris?
En ce moment, on crie quand même moins sur les devoirs, mais c'est toujours stressant quand on vient te dire va faire tes devoirs et tout, alors que toi, t'es juste en train de profiter, de faire ton téléphone, de faire n'importe quoi.
Et quand tu étais plus petite, quand tu étais en primaire ou même au collège, quand tu ne voulais pas faire tes devoirs, c'était la punition, c'était, donc là on vient de voir avec Gabriel, c'était pas de console. Et toi?
Oui, c'était... moi c'était... à partir de la 6e, c'était pas de téléphone. Et puis quand j'étais en primaire, c'était pas de télé ou tu peux... Voilà.
Et Cécile, tu les vivais comment, toi, ces moments-là, quand Iris ne voulait pas faire ses devoirs ou qu'elle avait des problèmes pour comprendre une leçon? C'était de l'énervement? C'était quoi exactement?
Alors, quand c'était une leçon qui n'était pas comprise, c'était pas trop grave parce qu'on expliquait calmement. Et voilà. Après, Iris, c'est plutôt du genre têtu. Donc, quand elle a décidé qu'elle ne ferait pas ses devoirs, elle ne les fait pas. C'est encore aujourd'hui, hein, quand elle a décidé qu'il y a une matière qu'elle travaillerait pas, c'est compliqué. Maintenant, elle est au lycée, je m'en occupe moins quand même. J'estime que c'est un travail personnel qu'ils ont à faire. La preuve, hein, elle l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de recherche. Il n'y a pas vraiment de devoir, en fait. Ce sont des analyses, ce sont des choses, mais c'est plus des exercices à part les maths. Mais sinon, pour le reste, il n'y a plus vraiment d'exercices type comme on a en primaire et au collège. Mm-hmm. Après, au niveau du collège, y a des jours où on est obligé de se fâcher, de punir, de dire tant que t'as pas fait ton devoir, et tu sors pas de ta chambre, ou il n'y a pas la sortie avec les copains et les copines qui étaient prévues, il n'y a pas de soirée pyjama, on punit comme on peut.
D'accord, donc les soirées, c'était pas triste, quoi.
Ah non, c'était pas triste, non. C'était des heures à rester assise à côté d'elle, parfois jusqu'à temps qu'elle décide de faire ses devoirs.
Oui, donc
ça pouvait durer jusqu'à des 21h, 22h.
Hein. Mm-hmm. Donc je ne sais pas si Iris et Gabriel comprennent un petit peu l'énervement des parents qui, eux, ont fait leur journée, évidemment, au travail et qui, arrivés à la maison, sont obligés encore de se battre pour que les enfants fassent les devoirs. Hein. Vous comprenez ça, l'énervement des parents ou...
Il n'y a que maman que je comprends. Hein. Mais papa, lui, c'est du théâtre. Faut profiter, c'est un loisir. Son travail, c'est fait pour le loisir. Donc, on ne s'énerve pas en rentrant du boulot.
Ah oui, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Son métier, il est régisseur, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc,
c'est du stress
ouais. Permanent, il ne faut pas croire. Mais tous les travails, tous les boulots, en fin de compte, sont très, très stressants.
Non.
Oh.
Les footballeurs, c'est pas stressant.
Si, il y a toujours des points à marquer. Hein. D'après les études, un enfant qui n'a pas compris à l'école ne comprendra pas plus en faisant les devoirs que ce soit seul ou avec les parents. On dit même que cela est parfois pire, car les parents voulant aider les enfants vont prendre une autre méthode, non celle étudiée en classe, c'est-à-dire on va reprendre nos vieilles méthodes, voilà, et cela risque fort de perturber encore plus l'enfant. Avez-vous déjà eu l'exemple d'un parent ou d'un grand-père qui voulait vous expliquer quelque chose que vous ne compreniez pas parce que ce n'était pas la même méthode? Comment vous avez réagi quand ça s'est passé? Vas-y.
Moi, c'était la technique de papa. Lui, c'était sur les soustractions.
Papa, qu'est-ce qu'il prend?
Genre, par exemple, 132 moins 99, le 9 moins le 2, l'unité. Mais nous, on faisait de 9 pour aller à 12, c'est combien? Alors qu'en primaire, nous, c'était 12 moins 9, ça faisait combien?
Ah oui.
Mais je préfère, et j'ai toujours adapté la technique de papa, de 9 pour aller à 3, pour aller à 12, ça fait combien? J'ai toujours adapté cette technique. J'ai jamais adapté les techniques 12 moins 9, ça fait combien?
D'accord, donc tu as pris la technique de papa.
Ouais.
Donc, en fin de compte, c'était bien. Alors, nos anciennes méthodes, elles ne sont pas si mal. Donc, tu as très bien réagi, ouais. Du coup. Voilà. Et toi, Iris, ça t'est arrivé, ça, avec
oui, ça
Cécile?
M'est arrivé. En CM1, j'arrivais pas très bien à faire des divisions et maman m'avait appris sa méthode. Parce que la maîtresse, à l'époque, nous faisait faire des soustractions dans la division et moi, j'arrivais pas à comprendre ça. Et en fait, les soustractions, maman m'avait apprise à les faire de tête. Et c'était beaucoup plus simple et j'avais même appris à la maîtresse comment maman faisait les divisions.
Alors, alors, la réaction de la maîtresse?
Elle je suis contente, elle avait appris une nouvelle méthode.
D'accord. Bon. Donc, comme quoi, nos vieilles méthodes, des fois, on peut vous aider comme on peut vous embrouiller.
Mais je crois que le pire, c'est quand même l'apprentissage de la lecture. Moi, j'ai vu avec mes petits-enfants,
c'est
quand
oui.
J'avais les devoirs pour la lecture, comment... Mm-hmm. Parce que nous, on avait notre méthode, mais alors là, qu'est-ce qu'on doit leur dire?
C'était la méthode Bauchet, si mes souvenirs sont
oui,
bons.
Mais comment on peut faire, quoi?
Et là, faut faire attention de ne pas non plus, entre les méthodes de l'école et les méthodes, etc. Enfin,
on est obligé de leur dire comment tu as appris à l'école, comment tu as fait et tout. Mais là, ce n'est pas du tout évident.
Oui, mais maintenant, je crois que ce n'est plus la méthode globale. Si, c'est mitigé.
Enfin, c'est mitigé. Hein, et c'est pour ça aussi que, regardez, c'est pour ça que quand des associations font les devoirs, parce qu'il y a les devoirs du soir qui peuvent être faits par des associations ou des structures après l'école, il faut bien faire attention que ce soit pas, ça ne rentre pas en conflit avec ce qui est fait dans la journée avec les profs au niveau...
Mais il faudrait qu'il y ait un lien entre ces associations et les professeurs, comme il pourrait y avoir un lien aussi entre les parents et les professeurs.
Parce que ça peut être aussi une bonne chose aussi de faire par des gens neutres les devoirs. au lieu de le faire par les parents directement.
Ça existe, hein.
Oui, bah, les devoirs du soir, nous, mm-hmm. On le voit à Montataire ou dans différents endroits. Le fait que ça soit pris par des associations. Mais il faut aussi que ce soit bien réglé et bien cadré. L'idéal, ça faudrait des liens avec les enseignants, quoi. Il faudrait vraiment ce lien.
Mais parfois, ce sont les enseignants. Oui. Ils font directement. Bah,
ils
c'est
le font
bien.
Directement à l'école. Voilà. Il y a les devoirs du soir qui sont faits après l'école avec certains enseignants.
Et toi, Cécile, tu as eu ce problème. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais Cécile, tu as eu ce problème-là avec l'apprentissage de la lecture, ce que disait Gérard là il y a un instant.
Alors, nous, ils ont appris à la méthode Beauchère, hein, à l'école où elle était.
Ah.
Donc, moi, c'était une enfant qui avait demandé avant à apprendre à lire. Elle avait réussi d'elle-même à apprendre des sons. Donc, on était passé à la méthode Beauchère entre nous pendant l'école maternelle. Et après, quand elle est arrivée en CP, c'était la méthode Beauchère. Donc, il n'y a pas eu de problème pour elle.
Moi, j'avais un petit souci avec ma fille parce qu'elle avait beaucoup d'otite séreuse, donc elle avait du mal à comprendre et à entendre. Et on s'en était rendu compte avec le professeur. Donc, pendant les vacances de Pâques, je crois, j'avais repris toute la méthode Beaucher et j'avais travaillé avec elle et j'avais été aidée par le professeur. Donc ça, j'avais trouvé ça très, très sympa aussi.
Je voulais poser une petite question à Iris. Est-ce que les parents sont la dernière issue de secours pour aider à faire un devoir?
Ah oui, totalement. C'est eux. En fait, normalement, dans la tête de l'enfant, c'est papa, maman, ils savent tout. Donc,
merci, c'est gentil.
C'est gentil, ça, parce que moi, c'est pas ce qu'on me disait.
C'était, pour moi, c'était plus un appui. Par exemple, je suis nulle en tout ce qui est science et maths. Donc, je demandais beaucoup plus à papa de m'aider à faire les devoirs, de comprendre, de m'aider à faire les exercices, quoi.
C'était cette confiance.
Et tu passais jamais d'abord par tes amis?
Non.
Jamais?
Non. Oh. Jamais.
Et toi, Gabriel?
Là, maintenant, en sixième, on a adapté le style, là, depuis le confinement, le style ENT. Et donc, maintenant, moi, ce qui m'est arrivé, là, en cours de SVT, on avait un devoir. Sur la consigne, il fallait recopier. Et en fait, j'étais pas sûre s'il fallait recopier toi-même le programme, là, ce qu'il a fait, et nous, à inventer des trucs avec la feuille. Il fallait le faire directement sur la feuille. Donc, j'ai envoyé un message à la prof de SVT. Elle m'a répondu, non, Gabriel, fais-le sur la feuille. Et comme ça, ça m'a aidé.
D'accord. Grâce à l'ENT.
Ouais.
Ce qui permet d'être en lien plus facilement avec le professeur. Ça, c'est bien. Alors, il existe une aide qui s'appelle « Devoir fait ». Alors, ça permet donc aux élèves volontaires, hein, d'écoles élémentaires et de collèges de l'éducation prioritaire, donc les REP, hein, les REP, d'être accueillis après les cours. Ces élèves donc font les devoirs directement à l'école. Et est-ce que vous auriez aimé une telle aide, de pouvoir profiter d'une aide comme ça directement à l'école quand on n'a personne pour nous aider ? Gabriel. Oui, Iris, vas-y, allez-y.
Personnellement, les institutrices nous aidaient quand même pas mal, donc je pense pas que ça aurait été... Enfin, ça aurait été bien, mais ça aurait pas changé beaucoup.
D'accord. Et toi, Gabriel?
Moi, j'ai un copain qui est dans la même classe que moi. Il a les devoirs faits. Et il me dit, moi, à la maison, au moins, parce qu'on n'a pas, j'ai pas beaucoup le temps. Son père, il part beaucoup aux États-Unis. Là, il est aux États-Unis. Donc, sa mère, elle n'a pas non plus le temps. Il faut qu'elle gère tout. Il vient d'avoir son petit frère juste avant les grandes vacances. Donc, il faut qu'elle gère son petit frère. Donc, Bilal, lui, les devoirs faits, ça l'aide vraiment. Ça lui permet d'être tranquille
le soir.
En rentrant à la maison.
D'accord. Depuis janvier 2019, il existe la plateforme Jules sur Internet qui aide les collégiens à revoir des notions fondamentales des programmes dans le cadre des devoirs faits pour tous les niveaux au niveau collège. Est-ce que tu as déjà utilisé Jules? Tu savais même pas?
Non, je connaissais
pas. Tu connaissais pas. Tu peux le mettre, Luc?
Bienvenue sur Devoir fait. Besoin d'aide pour tes devoirs? Envie d'éclaircir une définition ou une notion? Pas de problème, pose tes questions à Jules. Jules est le parfait compagnon des devoirs faits. Il est 100% gratuit et disponible quand tu en as besoin. Il comprend tes questions et ses réponses sont conformes au programme et élaborées par des enseignants. Alors si pour faire tes devoirs, tu dois revoir un théorème ou une notion de français, Jules t'accompagne. Il répond à toutes tes questions. Par exemple, sur une définition en mathématiques ou bien sur une notion de français. Il peut même te guider pour construire des figures géométriques. Jules te propose aussi des conseils, des révisions, des astuces grâce aux fiches méthodologiques pour t'aider à progresser lorsque tu fais tes devoirs. Tu peux retrouver facilement Jules au collège sur la plateforme Devoirs faits depuis ton ENT sur un ordinateur du collège, sur le site devoirsfaits.cned.fr ou bien encore sur l'application Devoirs faits depuis une tablette en salle d'études.
Voilà, donc ça, c'est donc Jules qui peut aider tous les collégiens de la 6e à la 3e. Donc, ce qui est étonnant, c'est que tu ne le connais pas, donc les professeurs ne vous en ont pas parlé, alors que c'est en place depuis 2019, alors qu'il y a eu ce fameux confinement, n'est-ce pas, qui aurait pu, en plus, lui, Jules, aurait pu vous aider à comprendre peut-être les leçons, etc. C'est oui, très étonnant que les professeurs n'en aient pas parlé, quoi.
Sauf que, comme on l'a vu lors du confinement et, depuis longtemps, les plateformes numériques et tout ce qui est numérique dans l'éducationnel n'est pas tout à fait à l'ordre du jour.
Oui, mais bon, ils font des efforts quand même.
Moi, je trouve ça bien. Hein,
oui, c'est bien.
C'est bien. Bon, alors maintenant,
t'as un devoir à faire. Sauf que t'as un contrôle, tu le loupes. Ton prof te demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis, mais c'est de la faute à Jules.
Oui, voilà, il y a aussi ça. Mais il faut que ce soit...
Je la voyais venir. Donc voilà.
Il faut que ça marche correctement.
Il y a Jules, voilà. Et donc, tu savais qu'il existait, toi, quelques plateformes comme ça pour aider les collégiens ou les lycéens, Iris? Est-ce que vous, au niveau du lycée, on vous a donné quelques noms de plateformes ou pas du tout?
Alors oui, moi, je connaissais des plateformes comme ça, mais au lycée, non, on nous en a pas parlé.
Et tu t'en es servi de ces plateformes ou pas du tout?
Ah oui, énormément.
Énormément. Tu as un nom de plateforme là, qui te revient à l'esprit là, pour aider nos petits collégiens ou nos grands collégiens?
SchoolMove.
Comment?
SchoolMove.
Ah, SchoolMove. À noter.
Mais ça s'écrit comment, ça?
School.
C'est l'anglais. School, comme l'école en anglais.
Oui.
Et Move, M-O-U-V.
M-O-U-V.
Voilà. Bon, merci pour les renseignements. Hein.
Alors, mais il y a une partie qui est payante aussi.
Ah, il y a une partie payante. Ah, d'accord. Et en gratuit, tu connais pas, non?
Lumni. Oui,
ah, Lumni. Lumni, oui. C'est vrai, en plus, Lumni, oui.
Qui a servi quand même pas mal pendant le confinement.
Pendant le confinement, Lumni. Alors, est-ce que tu as travaillé, toi, sur cette plateforme Lumni, Iris?
Oui, quand même un petit peu.
Et alors?
Surtout en histoire géo.
Et ça t'a beaucoup aidé?
Oui, ça explique bien les cours et puis c'est illustré, donc ça aide
à comprendre.
À visualiser.
Oui, parce que ça passe aussi à la télé, je crois, Lumni. Hein.
Oui.
Voilà, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais ça doit être sur la 5, je crois. Mais oui, c'est intéressant, oui. C'est vrai qu'on devrait en parler un petit peu plus. Alors, imaginons un monde sans devoir, dites donc. Alors, la Chine a voté une loi au Parlement pour réduire et aménager les devoirs, les cours extrascolaires très pesants dans la vie des élèves. Dans cette loi qui rentrera en vigueur donc à partir de janvier 2022, les parents d'enfants mineurs devront s'y répartir les activités sportives, de divertissement, de repos, de temps consacré aux études, dans le but aussi d'éviter la dépendance à Internet. Une loi bienvenue car en Chine, la réussite scolaire est un challenge qui mettait à mal vraiment la santé des enfants et des jeunes. Est-ce qu'en France, on aurait besoin d'une telle loi, sachant que les devoirs vont s'intensifier hein, à fur et à mesure que vous allez donc grandir? Et est-ce qu'il faudrait prendre en compte plus les activités culturelles et sportives à la place des devoirs le soir?
Moi, je dirais non, j'ai plus, parce que je pense que plus on grandit, plus on a des devoirs. Et pour moi, en fait, je reviens sur la définition des devoirs que j'ai donnée. C'est ce qui permet vraiment de réviser le cours du jour. Donc c'est vraiment très très important les devoirs. Et la Chine, je pense que c'est une très mauvaise idée.
Non mais attention, hein, en Chine, c'est pas comme en France. Hein, là-bas,
Les enfants se suicident s'ils n'ont pas les bonnes notes. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment, il faut arriver à tout prix à être l'un des meilleurs élèves. Donc en fin de compte, ils ont la classe hein, pendant 8 heures. Et en plus, ils ont des cours spécifiques payés par les parents. Et en plus, ils ont des devoirs, c'est-à-dire ils ont une charge de travail immense, immense. Et donc, effectivement, c'est ce que disait Gérard, quand ils n'arrivent pas à avoir des notes, des bonnes notes, beaucoup d'enfants se suicident parce que, eh bien, il y a tellement une pression sociale et pression des parents. Là, je pense que pour les petits Chinois, c'est une bonne solution.
Peut-être plus pour les Chinois que pour nous.
Voilà, oui,
nous. Parce que nous, on a déjà beaucoup trop de lois. On le voit, on a quand même sur les devoirs, on a quand même eu cinq lois en peu de temps. Donc nous, on est toujours, on fait trop de lois. Donc je vois pas trop à quoi ça servirait.
Mais j'ai posé une question à Iris. Comment vois-tu une seconde idéale par rapport à tes cours?
En fait, je pense que là, ma seconde, elle est très bien, mais en fait, ma seconde idéale, je pense, ce serait de choisir vraiment ses matières, en fait. Parce que là, on a des options qu'on choisit en début d'année, mais par exemple, sur le sujet de... Il y a des matières qui vont pas nous servir pour plus tard. Je pense qu'on peut mettre justement des matières en place. Donc, par exemple, moi, les sciences, j'aime pas du tout ça et je pense pas que ça me servira un jour. Donc les éliminer de mon emploi du temps.
Et qu'est-ce que tu mettrais à la place?
Juste les matières littéraires, des langues.
Tu mettrais plus de matières comme ça, mais tu penserais pas aménager tes journées autrement.
Est-ce que l'idéal, ce serait pas le temps d'organisation qui serait peut-être intéressant à revoir?
Après, ce serait aussi cool d'avoir cours que le matin ou que l'après-midi. De sorte à ce qu'on puisse se reposer quand même un petit peu et avoir un peu le temps de faire les devoirs et de se reposer.
Et d'avoir d'autres activités que les cours, quoi. C'est ça, quoi. Culturel, plus de théâtre, plus de sport, etc. C'est ça.
Moi, je me réfère toujours à l'Est. Hein. À l'Est, ils ont les cours essentiels qui sont le matin, l'après-midi, c'est les cours de découverte et d'activités culturelles. Ça serait beaucoup plus intéressant.
Alors là, on voit avec la Chine, hein, c'est une première hein, de faire une loi et poussant les parents aussi donc à faire attention à la santé mentale de leurs enfants. Hein. Moi, si jamais il n'y avait pas de devoir du tout à la maison, est-ce que vous auriez peur quelque part de vous ennuyer le soir lorsque vous rentrez de l'école?
Oh non.
Non. Vraiment.
Non. Ah. Qu'est-ce que vous feriez? Bon, à part les jeux vidéo.
Ah. Bah, moi...
Parce que ça ne sera pas plus d'une heure et demie, hein. C'est pareil. Hein. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Gabrielle?
Moi, il ne faut pas me juger. Je suis peut-être encore en sixième, mais j'ai toujours une épée avec moi et je joue toujours avec, en caoutchouc. Je joue toujours avec et je me fais des petites histoires.
D'accord, ouais. Donc, ça serait plus pour travailler ta créativité, en fin de compte. Voilà. Et toi, Iris?
Moi, j'aurais plus le temps de sortir avec des amis, par exemple, de décorer ma chambre, d'écouter de la musique. J'ai le temps de promener mon chien aussi.
D'accord, ouais. Et Cécile, la maman, s'il n'y avait pas de devoir le soir? Bon, maintenant, effectivement, Iris est grande et puis, elle est plus indépendante, mais... qu'est-ce que tu en aurais profité pour faire quoi plutôt que de passer une heure ou deux heures
Au niveau du lycée, en plus on va dire qu'avec les options aujourd'hui, toute la classe n'a pas les mêmes horaires, donc il y a pas mal d'heures de perm, donc elle en profite quand même pour faire ses devoirs pendant les heures de perm. Elle est quand même un peu plus libre, on va dire, le soir que pendant les années collège.
Mais toi, tu aurais fait quoi avec Iris s'il n'y avait pas eu de devoir le soir?
Je sais pas, avec elle, je sais pas, parce que moi, je travaille jusqu'à 19h à peu près, et puis après, c'est le repas et compagnie, mais... Mmh. Mais au moins, elle aurait eu du temps libre pour elle et peut-être, justement, se reposer.
D'accord.
Avoir les idées plus claires et peut-être se remettre aussi en question, parce qu'à l'adolescence, on se cherche et je pense qu'avec les 8 heures de cours plus les trajets de bus, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui ont des longs trajets de bus, plus après les devoirs, ils n'ont pas vraiment le temps de savoir qui ils sont.
D'accord. Et au niveau des devoirs, je reviens un petit peu sur Gabriel, est-ce que tu passes énormément de temps tous les soirs au niveau de tes devoirs ?
J'ai jamais eu... Je suis jamais passée vraiment plus avant. Hein. Maintenant, au collège, avec papa, c'est presque une heure d'allemand et d'anglais ensemble. Hein. Mais sinon, à l'époque, je passais même pas 20 minutes sur mes devoirs.
D'accord, oui, parce qu'ils disent en 6e, 30, 45 minutes. Voilà. Et toi, Iris, au niveau du lycée
Là, je reste quand même... En comptant les heures de terme, quand même, je reste bien 2 heures, 3 heures sur mes devoirs, quand même.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Au lycée, les devoirs ne doivent pas excéder 2 heures par soir. Oui, et au-delà, ils disent, les résultats commencent à baisser car l'apprentissage n'est plus efficace.
Alors ça, c'est totalement faux parce que plus on fait de recherches dans la matière, plus on a de bonnes notes. C'est comme tout, en fait. Si on travaille plus un sujet qu'un autre, on va avoir plus de meilleures notes, en fait.
Je pense peut-être qu'il parle plus de fatigabilité au bout de 2 heures. Je pense que c'est ça.
Ah, oui.
Tu vois, quand tu as fait ta journée, je pense que c'est plus là-dessus. Voilà. Juste une petite question. Durant les vacances scolaires, vous lâchez un peu les cours, les révisions. Avez-vous l'impression d'être un peu plus libre pendant les vacances ?
Je peux commencer ?
Ah, vas-y, Iris.
Ça dépend. En fait, là, par exemple. Les professeurs ont donné beaucoup moins de devoirs que d'habitude, qu'ils ont estimé que c'était les vacances de Noël et qu'on allait passer plus de temps en famille. Mais j'en ai toujours. Donc je passe quand même du temps sur mes devoirs. Et même si je peux passer une journée sur mes devoirs et comme ça c'est fait, je fais quand même une journée pendant les vacances, quoi.
Et durant les vacances d'été, parce que là c'est plus long pendant les vacances d'été, est-ce que tu lâches complètement tes bouquins ou est-ce que... Pour essayer de faire travailler toujours le cerveau, en fin de compte, tu continues à regarder un petit peu tes cours
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
La plage, la piscine, les
oui,
copains.
D'accord, parce que toi, tu as 14 ans et tu es en seconde. Donc, ça veut dire que tu as des facilités.
Oui.
Voilà. Hein, t'as combien ? Deux ans d'avance, c'est ça ? Ou presque trois ?
Non, un an seulement.
Un an.
Juste né en fin d'année.
Ah, d'accord, ok, un an. Et toi, Gabriel, alors, au niveau des vacances scolaires, là, qu'est-ce que tu vas faire
Là, je suis pareil que Iris. J'ai presque pas de devoirs pour les vacances. Il n'y a eu aucune chose qu'ils m'ont dit. C'est parce que c'est Noël, non, les profs, ils n'ont rien dit. Mais sinon, pendant les vacances...
Les grandes vacances, voilà, oui.
Jamais, bouquin. Là, surtout, là, cette année, entre CM2 et 6e, je ne sais pas ce qui est arrivé à papa et maman. Ils se sont dit... Vu que c'est la 6e, t'as des facilités. Ils savaient que ça allait être encore des révisions. Donc, ils se sont dit, allez, on lâche l'affaire.
Donc, tu n'as pas eu de cahier de ce qu'on appelle les fameux cahiers de vacances.
Non.
Hein, qu'au départ, les jeunes font et puis à la fin, ils n'arrivent jamais, jamais, jamais jusqu'au bout. Voilà.
Quels sont les devoirs pour... Quelles sont les matières pour vous, vous trouvez qu'il y a trop... Enfin, trop ou il y a trop d'heures où vous trouvez des devoirs à faire de ce côté-là.
Aucune
matière. C'est toutes les matières. Il n'y a pas une matière plus qu'une autre. Vous trouvez qu'il y a plus de temps consacré aux devoirs
C'est les maths.
Les maths.
Mais à part ça. Mais après, vu que moi, j'ai des facilités en maths, j'ai fait presque tous au cours. Alors moi, dans mon agenda, il n'y a presque rien.
D'accord. Et Jackie, tu avais trouvé des statistiques sur les jeunes, le pourcentage de jeunes qui demandent de l'aide pour faire leurs devoirs, non ?
Non, pas spécialement. Il n'y avait pas spécialement de statistiques. Il y avait seulement des retours de psychologues, enfin de gens qui donnaient surtout des recommandations, notamment sur d'imposer une rupture après le retour à l'école. Donc, pour les moins de 13, avant 13 ans, de donner un petit 3/4 d'heure avant de se mettre au devoir. Et surtout, pour ces gens-là, hein, tous les psychologues et autres, hein, d'imposer une règle d'or. Alors, bon, c'est une règle d'or, hein, c'est pas chacun en fait. Mais c'était d'installer un rituel de devoir du soir avec l'heure, le lieu et la durée identique chaque jour. Cette rigueur favorise la structure des apprentissages pour eux. Donc c'était d'avoir vraiment à chaque fois de se donner un cadre à chaque fois pour justement mettre en place les devoirs.
Moi j'aimerais, comme on arrive pratiquement à la fin de l'émission, avoir l'avis de Cécile sur comment tu as vécu, Cécile, toutes ces années de devoirs, en fin de compte, avec Iris.
Alors, les devoirs, il y avait un rituel, hein, il y avait sur la table de la salle à manger, tous les soirs, à la même heure, hein, suivant la circulation quand je la ramenais, mais c'était toujours à peu près à la même heure, toujours sur la table et sur cette table de salle à manger. Et c'est pas pour autant qu'elle avait envie de travailler. Enfin, les devoirs, ça a toujours été très très compliqué. Elle estimait qu'elle avait fait sa journée et qu'elle avait plus lieu de retravailler quoi que ce soit. C'est pas parce que c'est une enfant qui a des facilités qu'elle avait envie encore de travailler et d'être encore plus performante. Voilà. Donc il y avait, comme tous les autres enfants, il y avait un ras-le-bol et il y avait envie, cette envie d'aller jouer.
Et toi, donc, en fin de compte, au niveau des devoirs, tu étais plutôt pour ou plutôt contre? On ne peut pas dire contre parce que ça aide toujours l'enfant dans son travail personnel à faire. Mais qu'est-ce que tu ressens maintenant avec les années passées?
Je pense que je suis pas certaine que ce soit nécessaire parce que là où ils ont des difficultés, ils gardent leurs difficultés malgré les devoirs à la maison. Le fait qu'on les oblige à faire du travail supplémentaire, je suis pas certaine que ça les motive plus. Et je suis pas certaine que ça les aide vraiment à être encore meilleurs. Donc après, l'enfant aime l'école, il va travailler de lui-même, il aime pas l'école, il travaillera pas plus. Mmh. Et je pense que oui, effectivement, comme nous on l'a ressenti quand on était enfant, il y avait des matières sur lesquelles on avait envie de travailler et des matières sur lesquelles on n'avait pas envie. Et j'ai envie de dire, les matières sur lesquelles j'ai pas travaillé à l'école parce que j'en avais aucun intérêt ne m'ont pas servi plus tard. Et là, je vois par rapport à ce que Iris veut faire plus tard, je me dis que ben c'est du bourrage de crâne pour pas grand chose.
Mmh. Je pense que c'est une belle conclusion. Moi, mes enfants me disaient toujours, maman, tu rentres du travail, t'as fini ta journée. Nous non, on a encore les devoirs. Vas-y, Gabriel.
Mon meilleur ami Lucas, je l'admire beaucoup parce que lui, plus tard, il veut devenir footballeur, mais c'est pas pour ça qu'il lâche ses études. Il travaille tout le temps. Certainement que plus tard, après le football, il a peut-être une idée de se rattraper pour continuer
de faire
sa
autre
vie
chose.
Normalement.
Bien sûr, bien sûr. Et toi, Iris, ton mot de la fin?
Bah moi, je pense que les devoirs, ça sert pas forcément à grand chose non plus. Mais je pense que les devoirs, c'est mieux de les faire vraiment en cours. Comme ça, on a des explications avec le professeur ou quoi. Et pas avec juste les parents qui connaissent pas forcément la leçon. Ou voilà.
Bah, ça sera le mot de la fin, Iris.
Eh bien, merci.
Merci à tout le monde.
Merci. Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement tous nos invités. Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de janvier, le vendredi 7 janvier à 19h, le lundi 10 janvier à 16h30, le samedi 23 janvier à 17h et le mercredi 26 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera l'armée de terre, métier et aide pour les étudiants. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulsien.fr. Merci à Luc, à la technique, et passez tous de bonnes fêtes de Noël. Au revoir.
Bonne fête.
Au revoir.
Bonne fête. Bonne fête, au revoir.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué? Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé? Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira, bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac.